Jean-Jacques Hublin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, professeur au Collège de France, directeur du département évolution de l'homme de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig. Ça, c'est en Allemagne, évidemment, pas loin de chez nous. Alors, rendons à César ce qui est à César. Il faut bien avouer que la nouvelle avait complètement échappé à nos radars et que c'est grâce à votre récente intervention dans l'excellente émission d'archéologie de France Culture Carbone 14 que nous l'avons apprise. Donc, il y a une récente étude qui a été menée au sein justement des laboratoires de génétique de l'Institut Max Planck et dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature, Ecology and Evolution, qui révèle que le crâne fossile d'une femme découvert il y a longtemps en fait en Tchécoslovaquie, hein, ça remonte aux années 1950, a fourni le plus ancien génome humain moderne. Alors peut-être avant d'évoquer spécifiquement ce crâne de Zlatikoun, comme il s'appelle, rappelons à nos auditeurs ce qu'est un génome. C'est l'ensemble des informations génétiques d'un organisme, de notre organisme par exemple.
Le génome, c'est une bibliothèque, en fait, hein, qui contient tous les livres de recettes qui permettent de faire fonctionner, de fabriquer d'abord, puis de faire fonctionner un être humain. Et donc, cette bibliothèque, elle se trouve dans le noyau de nos cellules. Et donc, ce génome, il est très important parce que, en particulier, il permet de reconstituer l'histoire des populations, disons la généalogie d'individus du présent, mais aussi du passé, puisque depuis maintenant allez, une vingtaine d'années, on a développé des techniques qui permettent d'extraire ce génome d'ossements fossiles. Et donc, voilà, on a de l'ADN qui a 10 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, voire beaucoup plus, hein, le plus ancien génome fossile que l'on connaisse. C'est celui d'un mammouth qui a 1 million d'années environ.
Quand vous parlez de bibliothèque, de couches d'informations, d'une certaine manière, ça évoque presque de l'archéologie, mais remis au niveau de la biologie, non?
Ben, c'est-à-dire que, bon, longtemps, les gens qui ont étudié le passé de l'homme, mais aussi le passé d'autres espèces, hein, se sont intéressés essentiellement à des fossiles, donc des ossements, des dents. Des restes plus ou moins complets dont on analysait l'anatomie. Puis à côté de ça, on avait de l'archéologie, hein, des objets produits par ces populations anciennes, et puis toute une série de techniques, en particulier des techniques de datation qui permettaient j'allais dire, de mettre tout ça en ordre. Alors, depuis maintenant une génération à peu près, on a ajouté quelque chose de plus qui est l'étude de molécules, alors surtout l'ADN, mais depuis quelques années, on s'intéresse aussi aux protéines. Et ces molécules, on les utilise dans le fond pour, encore une fois, reconstituer la phylogénie, hein, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une sorte d'arbre de toutes ces populations anciennes, mais aussi la démographie, tout un tas de choses, hein, la taille des populations, la façon dont elles ont fluctué au cours du temps, enfin tout un tas de choses. Donc c'est une mine de renseignements énormes. Et alors, l'intérêt de ces techniques moléculaires, c'est qu'on peut les mettre en œuvre même sur des vestiges qui sont très très fragmentaires. L'ADN, il suffit d'avoir voilà quelques parfois dizaines de milligrammes d'os, même d'un fragment qui est complètement, j'allais dire, muet du point de vue de la forme, et là, en tirer de l'ADN, le dater, et puis voilà.
En effet, on comprend bien. Donc, c'est vraiment une plongée. Il suffit de très peu. Alors, pour le coup, là, ce crâne hein, de Zlatikoun, c'est quand même un crâne assez complet. Hein, on le reconnaît. Hein, pour le coup, c'est pas juste un petit fragment d'os. Alors, peut-être rappelons que c'est un crâne de femme. Je disais tout à l'heure qu'il a été donc découvert dans les années 50, donc dans la grotte ou en tout cas un endroit qui s'appelle Zlatikoun, qui fait partie du plus important réseau de grottes du pays hein, de la République tchèque aujourd'hui, depuis la Tchécoslovaquie. Ce sont les grottes de Konya. Bon, disons qu'on l'appelle le crâne de Zlatikoun à cause de l'endroit exact où on l'a retrouvé. Quand on regarde le temps écoulé entre cette découverte et la datation, alors manifestement beaucoup plus précise qu'on en fait aujourd'hui, c'est clairement ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est grâce aux avancées de la science, voilà, c'est les avancées de la science actuelle qui ont permis ça. Comment est-ce que les chercheurs ont procédé? Est-ce qu'on pourrait peut-être rentrer dans la cuisine un petit peu de ces recherches? Est-ce que c'est possible de l'expliquer de manière intelligible?
Ce crâne donc a été découvert, je crois, en 1950 exactement, dans une grotte avec très peu de vestiges archéologiques. Donc à l'époque, il y avait vraiment très peu de moyens de le dater, et on s'est dit c'est quelque chose qui doit appartenir au début du ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, donc quelque chose autour de 40 000 ans. Mais dans le fond, on n'avait pas de preuve de ça. Puis ensuite, quand on a eu des moyens de dater le fossile avec une méthode de datation qui est le carbone 14, que tout le monde connaît, et qui a même donné son nom à une émission que vous citiez tout à l'heure, eh bien, on a été un peu déçus, parce que c'est cet âge qu'on a pu déterminer avec le carbone 14 sur le crâne de la femme de Zlatigo, c'est un âge beaucoup plus récent que ce que l'on attendait, environ 15 000 ans. Et donc, on l'a mis un peu au purgatoire, ce crâne, pendant un moment, c'est-à-dire on s'est dit, bah, finalement, il n'est pas si vieux que ça. Alors, malheureusement, le carbone 14, c'est une méthode qui est très précise, très sensible, mais qui est fondée sur la mesure de la radioactivité d'une forme très rare de carbone, qui est le carbone 14, qui peut survivre un certain temps dans des tissus organiques. Malheureusement, c'est une méthode qui est très sensible à toute forme de contamination. C'est-à-dire, si on mélange du carbone moderne avec du carbone fossile, on a un âge qui est complètement faux. C'est manifestement ce qui s'est passé avec le crâne de Zlatikoun. Alors, Zlatikoun est sorti donc de ce purgatoire. Pourquoi? Ben, d'abord parce que des collègues tchèques qui s'intéressaient à ce fossile ont voulu réétudier le crâne, alors le réétudier d'un point de vue anatomique. Hein. Ils ont pris contact avec un de mes collègues à l'Institut Max Planck qui s'appelle Johannes Krause, et ils lui ont dit, ben, puisqu'on va faire une étude du crâne du point de vue de la morphologie, ce serait quand même intéressant de voir s'il n'y a pas de l'ADN conservé dedans et ce que cet ADN pouvait nous dire. Et donc, Johannes Krause et son équipe, ils ont travaillé sur ce crâne. Il se trouve qu'il contenait de l'ADN. Et là, en fait, on peut en parler un petit peu plus ensuite, mais disons que l'ADN qui a été extrait donnait une indication de l'âge de ce crâne. Et cette indication d'âge était beaucoup plus ancienne que ces 15 000 ans qui avaient été établis il y a très longtemps. Et donc, tout d'un coup, Zlatikoun est revenu, si je peux dire, sur le devant de la scène. Et on s'est rendu compte que ce crâne appartenait à un ensemble de populations qui est un ensemble de populations qui représente en fait les premiers Homo sapiens, les premiers hommes comme vous et moi, qui ont peuplé l'Europe il y a plus de 45 000 ans et qui ont remplacé les hommes de Néandertal.
Quand on lit en effet des articles sur le sujet, on donne la date, mais c'est une date, on va dire, minimale. Hein. On dit 45 000 ans, mais ça veut dire que ces populations devaient être là, évidemment, bien avant. Hein. C'est un minimum. Vous parliez justement de l'ADN. Si j'ai bien compris, c'est parce que on a retrouvé, en tout cas, on a analysé une partie de cet ADN, en fait, comment dire, de Néandertal qui était également contenu dans l'ADN de ce crâne de Zlatikoun, qu'on a réussi à dater. Peut-être, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi cet ADN de Néandertal était déterminant en fait pour cette datation?
Il faut bien comprendre que tous les hommes actuels ont une origine africaine. Très longtemps, notre espèce a évolué en Afrique. Et puis, il y a environ 200 000 ans, on a des sorties d'Afrique de cette espèce. Alors, au début, ce sont des sorties qui ne vont pas très loin, hein, le Proche-Orient, le Levant, Israël, des régions comme ça. Et puis, il va y avoir plusieurs pulsations, si je peux dire. Et il y a environ 55 000 ans, 60 000 ans, bien, il y a la dernière de ces pulsations la plus importante. Et cette pulsation va faire que ces populations d'Homo sapiens africains, eh bien, vont se répandre dans toute l'Eurasie et ils vont remplacer des formes non sapiens, comme les hommes de Néandertal en Europe, mais d'autres formes archaïques ailleurs en Eurasie. Alors, au moment de ce contact entre notre espèce et d'autres espèces, il y a eu des phénomènes d'hybridation. Donc, on a eu des petits hybrides, si je peux dire, Néandertal-Sapiens. Alors, comment ça se passe quand il y a un hybride? Eh bien, la moitié de son ADN vient de sa maman et l'autre moitié de son papa. Ça veut dire que dans les chromosomes que contiennent ces noyaux, eh bien, il y a des petits fragments le long de ces chromosomes qui viennent du papa et des fragments qui viennent de la maman. Donc, en gros, chez un hybride de première génération, des grands segments d'ADN néandertalien et puis des grands segments d'ADN de sapiens. Au cours des générations suivantes, cette contribution néandertalienne, elle va se diluer progressivement. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons à peu près 2% de notre ADN qui vient de l'homme de Néandertal. Ce qui est important à comprendre, c'est que au cours de ce processus, comme le génome, donc cet ADN de nos chromosomes, il est mélangé à chaque génération, ces fragments d'ADN néandertalien voient leur taille se réduire de plus en plus au cours du temps. En mesurant la taille de ces fragments, on peut calculer le nombre de générations qui nous séparent de ce contact, de cette hybridation.
On arrive à le dater, en effet. Oui, c'est par rapport à ça, en fait.
Alors, dans le cas de Zlatikoun, c'est un peu compliqué. On a un fossile qui est un petit peu de la même époque, hein, qui est un fossile qui a été découvert en Sibérie occidentale, dans un site qui s'appelle Oustichim. C'est un fémur humain, et ce fémur humain a fourni de l'ADN très bien conservé, où on voit ces fragments d'ADN néandertalien inclus dans le génome d'Homo sapiens. Et ce fémur, on l'a daté de façon assez précise. Donc, il a 44 500 ans à peu près. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre de Zlatikoun, c'est qu'on n'arrive pas à le dater à cause de ces problèmes de contamination, mais par contre, on peut comparer la longueur de ces petits bouts d'ADN néandertalien dans son génome avec la longueur des petits bouts d'ADN néandertalien dans le génome de ce fémur de sibérien d'Oustichim. À Zlatikoun, ces fragments sont plus longs que ceux qu'on observe à Oustichim. Donc, ça veut dire que, en pratique, ça veut dire que Zlatikoun est plus proche dans le temps du premier contact avec les Néandertaliens que Oustichim. Donc, ça veut dire qu'il est plus vieux. Alors maintenant, c'est très difficile de donner une date précise. Donc, on dit plus que 45 000. C'est probablement aussi moins que 50 000. Donc, on est dans cette fourchette de temps, mais on ne peut pas donner un âge plus précis que ça.
Ce que cette étude, en fait, finalement, ce qu'on montre, en fait, d'une certaine manière, c'est que, avec cette découverte, hein, ça repousse aussi, en fait, la datation des migrations, justement, celles dont vous parliez tout à l'heure, de ces sorties, en tout cas, de cette dernière pulsation, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'homme moderne depuis l'Afrique vers l'Europe et vers l'Eurasie. Est-ce qu'on pourrait peut-être détailler un petit peu, encore un petit peu, sur ce sujet?
On sait qu'on a au Proche-Orient des Homo sapiens comme nous, qu'on dit modernes entre guillemets. On pourrait discuter sur ce terme qui est un petit peu problématique de mon point de vue, mais assez curieusement, dans le fond, ces hommes de notre espèce ne se répandent pas très haut en latitude avant une période assez récente finalement. Et cette période pendant laquelle on va avoir des Homo sapiens qui apparaissent en Europe, c'est une époque qu'on appelle le paléolithique supérieur. Je parlais de ce concept tout à l'heure, une période où sur le plan technique, sur le plan du comportement, on voit des tas de choses nouvelles se développer. Peut-être ce qui est le plus spectaculaire, c'est l'art paléolithique que tout le monde connaît, les grottes ornées, les statues d'animaux, de femmes, etc. Donc ça, c'est le paléolithique supérieur. Le modèle qu'on a eu en tête pendant très longtemps, c'est qu'il y a environ 40 000 ans, un petit peu plus peut-être, eh bien, il y a eu une espèce de vague d'Homo sapiens qui a un peu déferlé sur l'Europe et qui a remplacé, absorbé les Néandertaliens. Donc, un phénomène assez, j'allais dire, simple et relativement rapide. Ce qui a émergé depuis pas mal d'années, c'est l'idée qu'en fait, avant cette vague principale, il y a déjà eu des vaguelettes assez importantes en Europe d'Homo sapiens qui sont venus en Europe et qui ont été des populations pionnières qui finalement n'ont pas vraiment fait souche. C'est quelque chose qu'on a mis en évidence d'abord avec l'archéologie. Et donc ça, depuis assez longtemps maintenant, on a, en particulier en République tchèque, on a des outillages de pierres taillées paléolithiques. En particulier en République tchèque, il y a quelque chose qu'on appelle le bohunicien, que l'on a souvent identifié comme peut-être un marqueur d'une arrivée de ces populations pionnières. Alors, plus récemment, on a fait d'autres découvertes. J'ai moi-même travaillé dans un site qui se trouve en Bulgarie. On a eu la chance d'avoir des restes humains, de l'ADN et des outillages. Et maintenant, on voit très, très bien que ce peuplement de notre continent par l'Homo sapiens, c'est quelque chose qui a été beaucoup plus compliqué que ce modèle simple d'une vague de peuplement. En fait, il y a eu des populations pionnières qui sont arrivées, qui ont été au contact des Néandertaliens, qui parfois se sont, enfin, quand je dis au contact, c'est même un contact très proche, puisqu'ils se sont à nouveau hybridés avec des Néandertaliens une seconde fois en arrivant en Europe. On ne parle plus de la première, du premier contact au Proche-Orient, mais un contact en Europe. Parfois, ça n'a pas été le cas. C'est le cas à Zlatikoun, justement. Et puis, ces gens-là, dans le fond, ils semblent ne pas aller beaucoup plus loin que l'Europe centrale. On pense qu'ils ont été soit dissous dans ce monde néandertalien, soit qu'ils ont été remplacés par d'autres hommes modernes plus tard. Pourquoi? Parce que, en fait, tous ces fossiles assez anciens dont je parle d'Homo sapiens, quand on regarde leur génome, eh bien, on voit qu'ils n'ont pas de lien vraiment très clair avec les populations européennes actuelles. Donc, nous n'avons pas reçu leur héritage génétique. Par contre, nous avons reçu un héritage génétique de ces populations du Paléolithique supérieur qui sont plus tardives de quelques milliers d'années et qui, elles, sont arrivées après ces formes-là en Europe.
Alors, j'aurais peut-être une dernière question. Je ne sais pas si on peut vraiment y répondre, puisque vous disiez tout à l'heure que, en fait, la grotte où a été retrouvé ce crâne, en fait, il n'y avait pas énormément de vestiges autres, hein, de ce que j'ignorais. Est-ce que peut-être, est-ce qu'on peut en apprendre plus, peut-être, sur cette population, voilà, précise, qui devait sans doute vivre dans les environs de cette grotte? Est-ce que, peut-être, un environnement qui était en effet propice, enfin, voilà, à la vie de ces populations-là à l'époque, pour certaines raisons, ou alors, en fait, ça nous en dit, on peut pas en apprendre vraiment plus en fait sur ces populations, plus que en tout cas ce que nous dit l'ADN.
Moi, je pense qu'on peut quand même en dire quelque chose. Pourquoi? Parce que compte tenu de l'âge de Zlatikoun et de ce que l'on sait de l'archéologie en Europe à cette époque-là, moi je suis assez convaincu que Zlatikoun, comme mes fossiles bulgares de Batchokiro, comme mon homme sibérien de Oustichi, mais je pourrais vous en citer quelques autres. Tous ces gens-là appartiennent à ce paléolithique supérieur initial. Et ce paléolithique supérieur initial, on a quand même pas mal de sites où on a des restes archéologiques. Donc, on voit que ce sont des chasseurs de grands mammifères. Hein. Ils chassent le cheval, le bison, le renne, etc. Ils vivent dans une Europe qui est un peu plus froide que l'Europe d'aujourd'hui. Dans le fond, ils sont en compétition avec les hommes de Néandertal qui sont un petit peu sur le même, j'allais dire sur le même créneau, hein. Ils chassent à peu près les mêmes animaux, ils font à peu près les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'ils sont en compétition. On peut se demander pourquoi, au final, ce sont les Homo sapiens qui ont remplacé les Néandertal et pas le contraire. Ces hommes qui arrivent dans les moyennes latitudes et qui viennent de régions tropicales, ils ont toute une technologie qui leur permet de vivre dans ces environnements. Alors, ce qu'on voit notamment se développer, c'est toute une technologie de l'os. On a beaucoup de pointes en os, de choses comme ça. Probablement, une partie de ces objets servent justement à travailler les peaux, les fourrures, les cuirs. Et puis, il y a quelque chose qui est assez frappant, enfin, de mon point de vue surtout, c'est que on voit dans ce paléolithique supérieur initial quand même beaucoup d'objets qui sont des objets qu'on va qualifier de non utilitaires. C'est-à-dire qu'à côté des outils et des armes, on voit, alors c'est particulièrement vrai à Batchokiro, ce site où j'ai travaillé en Bulgarie, mais c'est connu dans d'autres sites, on voit beaucoup d'objets de parure, des pendentifs qui sont fabriqués à partir de dents d'animaux, parfois de coquillages. Alors, à Zlatikoun, je vous disais qu'on avait trouvé très peu d'archéologie, mais on a quand même trouvé un coquillage fossile qui a été découvert avec ce squelette de femme. Ces objets qui deviennent assez courants dans ces groupes humains, c'est quelque chose qu'on connaît pratiquement pas chez les hommes de Néandertal. On les connaît vraiment chez les tout derniers, alors qu'ils sont en contact avec les, les Homo sapiens. Et ces objets, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on a affaire à des sociétés où il y a déjà un type de comment dire, d'organisation sociale qui est peut-être beaucoup plus proche de celui des chasseurs-cueilleurs modernes qu'on connaît, enfin, qu'on connaissait encore il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire des sociétés où il y a des marqueurs sociaux, des marqueurs du statut des individus, des marqueurs de l'identité des groupes, peut-être une forme de réseau qui est quelque chose qui, à nous, hommes d'aujourd'hui, nous parle parce que nous vivons dans des réseaux comme ça, mais qui peut-être était beaucoup moins présent, beaucoup moins établi chez les formes d'hommes archaïques. Et c'est peut-être ça le plus de ces Homo sapiens modernes, et c'est peut-être pour ça que, au final, eh bien, ils ont remplacé toutes les formes d'hominines archaïques qui vivaient en Eurasie.